Et je fais trois lectures en lien avec cette prédication. La première dans Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Un deuxième texte, ou plutôt verset, dans 1 Jean 3, verset 15. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et la troisième, dernière lecture, dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Bonjour et bonne année à tous. Et je vous souhaite une année blanche. Ouais, vous pensez peut-être à la neige, comme moi un peu, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Mais blanche surtout, en lien avec le psaume 51 qui dit que lorsque Dieu nous purifie et nous lave, notre cœur est plus blanc que la neige. Voilà ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite pour l'année 2022. Et je suis content d'être avec vous ce matin pour nous imprégner de principes bibliques pour les relations humaines et particulièrement pour la gestion des conflits. Nous continuons notre série sur l'artisan de paix que nous avons déjà commencé ensemble. C'est vrai que pour être capable de voir la boue sur notre figure, nous avons besoin d'un miroir. Eh bien, pour le péché de notre cœur, nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'éclairage de l'Esprit afin de voir toutes ces éclaboussures et de demander d'en être purifiés. Et nous comptons sur l'œuvre de l'Esprit ce matin afin qu'il nous guide, qu'il nous montre et qu'il nous permette d'aller à Christ. Les enseignements, c'est vrai, sur l'artisan de paix, je suis conscient, sont conséquentes et denses. C'est vrai qu'on aura un peu plus que 20 minutes ce matin, mais j'espère que, grâce à Dieu, cela puisse être utile pour nos vies, comme cela l'a déjà été pour beaucoup de personnes qui ont entendu ces enseignements. Nous avons vu ensemble que la paix ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et nous avons particulièrement aussi insister sur la source, la motivation, l'origine, la force, la récompense de cette recherche de la paix qui se trouve dans le R0, le poignet, la rédemption de Jésus-Christ ou l'évangile de Jésus-Christ. Au travers de la rédemption, Dieu nous donne aussi le modèle et la motivation pour être des artisans de paix. C'est la base, le fondement, la source, le poignet de la main de toute activité de l'artisan de paix. L'œuvre de rédemption de Jésus-Christ dans lequel nous allons puiser son évangile, son salut. La main est un moyen simplement utilisé pour nous souvenir de ces éléments. Comme vous l'utilisez chaque jour, eh bien vous pouvez vous en souvenir chaque jour. Et vous en avez deux en plus. Le R de base, donc le poignet, nous est rappelé par le terme « rédemption » et le texte est 2 Corinthiens 5, 17 à 20 qui nous en donne le résumé, cette réconciliation avec Dieu. Et comme notre main, la main de l'artisan de paix, est formée de 5 doigts. Le premier et le cinquième nous indiquent des habitudes et les 3 doigts du milieu, en fait, des moyens de gérer le conflit. Le premier doigt, ça fait pas longtemps que je suis venu, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, donc vous devez encore vous en souvenir puisqu'on l'a vu la dernière fois. Donc la première, c'est rendre gloire à Dieu, hein, qui est basé sur 1 Corinthiens 10, 31. Ébloui par la grâce de Dieu, sans égale, nous avons plus de joie à glorifier Dieu qu'à poursuivre nos vains buts égoïstes. Donc on l'a développé avec ce 1 Corinthiens 10, 31, et peut-être que vous vous souvenez de iPad. Le deuxième doigt, c'est donc la première action, en fait, lorsque nous sommes face à un conflit. C'est retirer la poutre de son œil. En fait, lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leurs péchés, en fait, notre propre justice est balayée et nous admettons nos fautes parce qu'il va nous accepter. Il n'y a pas de risque. Celui qui se repent, Dieu ne va pas lui dire « Je fais les comptes et reviens demain. » Non. Et donc, c'est motivé par cette grâce de Dieu que nous allons confesser nos péchés. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui, basé sur Matthieu 7,5. Je vois un peu les autres doigts encore pour qu'on les ait bien en tête. Hein. Troisième doigt, un moment délicat souvent lors d'un conflit, c'est vrai, c'est faire part à l'autre de sa faute aussi, pour qu'il puisse être libéré de son péché, redressé avec douceur. Ça, c'est le troisième doigt. Quand nous acceptons que nous bénéficions de l'Évangile face à nos péchés, eh bien, nous serons incités à corriger et à restaurer dans la douceur ceux qui ont mal agi. Le but, ce n'est pas de leur dire « t'es mauvais », leur but, c'est de leur dire « j'ai été pardonné, je veux que tu le sois aussi ». Voilà le troisième doigt. Le quatrième doigt qui est lié à tout cela et on prépare, eh bien, c'est reconstruire par le pardon. Lorsque nous nous réjouirons du pardon libérateur de Dieu, nous serons prêts à aller pardonner aux autres de la même manière. Si vous cherchez à pardonner par vos propres forces, l'année 2022 va être difficile. Mais si vous puisez dans le pardon de Dieu, la blancheur que je vous ai souhaitée pourra être vécue par la grâce de Dieu. Et tout cela est basé sur Éphésiens 4, 32, donc cet enseignement que je me réjouis de vous donner par la suite. Cinquième doigt, donc une habitude comme le premier. Première habitude, rend gloire à Dieu en toutes circonstances. Deuxième habitude, qui est le cinquième doigt, qui est rechercher la réconciliation. En fait, encouragé par la persévérance de Dieu à appliquer sa grâce dans nos vies, Dieu persévère dans nos vies, eh bien nous vivrons dans une attitude de recherche constante de réconciliation avec ceux qui sont autour de nous, même ceux qui ne le veulent pas maintenant. Et nous allons parler de cette dernière partie lorsque nous parlerons donc du cinquième doigt, rechercher la réconciliation, basée sur Romains 12, 21. Voilà, maintenant qu'on a remis un petit peu en tête ces différents éléments de la main de l'artisan de paix, de l'évangile appliqué, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le R2. Hein? La première chose à faire lors d'un conflit. J'ai bien dit la première chose à faire lors d'un conflit. Hein? En continuant à vivre, bien sûr, l'habitude de rendre gloire à Dieu en tout instant. Le verset du jour qui nous accompagnera particulièrement est Matthieu 7,5. Matthieu 7,5 qui nous dit « hypocrite ». Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Alors Jésus utilise ici évidemment une image exagérée pour attirer notre attention. Une personne qui a une poutre dans son œil. Ouais, ça ressemble à une poutre ça. Hein? Une poutre dans son œil, peut-elle voir quelque chose? Non! Rien du tout. Alors des fois, il y a des dessins, une poutre qui sort d'un œil. Bon, ben, on voit que l'autre est encore utilisable. Moi, je crois que vraiment, c'est la poutre qui, où les deux yeux sont aveuglés, disons. Donc, il serait totalement hypocrite, en étant aveugle, d'être capable d'enlever la paille de l'œil de son frère. Vous pouvez essayer aujourd'hui d'essayer d'aller enlever la paille de votre voisin. Enfin, faites-le pas maintenant, hein, mais en fermant les yeux. Faites-le pas avec une bruselle, c'est trop dangereux. Déjà, quand on voit, ce n'est pas facile. Alors aveugle, cela devient impossible. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas enlever la paille de l'œil de son frère? En lisant le texte attentivement, il n'est pas question d'interdire cette action qui peut être salutaire. Mais elle est faite en prenant d'abord notre responsabilité pour notre péché. Parce que la possibilité de résoudre notre péché est aussi grosse qu'une poutre. Nous sommes appelés à nous repentir et nous seuls pouvons nous repentir de nos péchés. La possibilité de gérer ou d'aider à quelqu'un à régler son péché est beaucoup moins grande, comme un petit bout de paille, car c'est lui seul qui pourra se repentir de son péché. Vous ne pouvez pas vous repentir pour l'autre. Par contre, nous pouvons le guider dans ce chemin de la repentance. Mais ça, c'est le R3. On a tendance à glisser tout de suite vers le redresser avec douceur. Aujourd'hui, on restera dans le retirer la poutre. Et comme la dernière fois, je vais vous lire une histoire conséquente pour illustrer cette seconde action. Et la dernière fois, c'était une histoire d'héritage, peut-être vous vous souvenez. Et aujourd'hui, ça se passe dans une église. Parce qu'il existe des églises où il y a des conflits. Enfin, il avait eu sa chance. Serrant bien fort sa déclaration dans sa main, Marc s'assit au premier rang de l'église, prêt à en découdre avec les anciens. 6 semaines auparavant, ils avaient refusé d'appuyer sa nomination comme pasteur principal. Ils sont restés là sans rien faire lorsque Marc s'est fait calomnier dans une assemblée générale. Le pire de tout, c'est que certains ont parlé derrière son dos, émettant des doutes quant à sa capacité de remplacer leur pasteur qui partait à la retraite. Après des mois de tension, de plus en plus forte, les anciens avaient finalement fait appel à une délégation de conciliateurs formés comme artisans de paix. Pendant 2 visites de 3 jours chacune, les conseillers ont enseigné à toute l'assemblée comment rechercher la paix. Ils ont suscité des discussions personnelles, encouragé Marc et les anciens à être des modèles pour l'Église en reconnaissant chacun ses torts dans le conflit. Mais Marc n'arrivait pas à changer sa manière de penser. Les péchés répétés des anciens étaient plus graves que ces quelques erreurs. À quelques jours d'une deuxième série de week-end pour l'Assemblée, les anciens étaient sur le point de confesser publiquement leur faute à l'Assemblée. La déclaration qu'ils avaient préparée n'allait pas aussi loin que ce que Marc et sa femme espéraient. Alors, ils planifièrent de démontrer publiquement le péché des anciens à leurs égards. Quand la réunion commença, l'un des médiateurs prêcha sur la réconciliation et expliqua le but et le déroulement prévu de cette réunion. Il donna ensuite la parole au porte-parole des anciens. Lisant une déclaration préparée d'avance, il confessa différents actes qui avaient fait du tort au pasteur Marc. Puis, se tourna vers Marc et donna et dit: nous avons péché contre vous. Nous vous avons fait du tort. Nous sommes vraiment désolés. Et il était évident, d'après les larmes qui coulaient sur son visage et sa voix tremblante, qu'il parlait de tout son cœur. Puis un autre ancien prit la parole, confessa ses propres péchés et demanda pardon au pasteur associé à l'assemblée. Un troisième ancien fit de même. Les conciliateurs avaient pensé que seuls 2 ou 3 anciens parleraient, mais 7 des 9 ont ajouté leur confession personnelle à la déclaration qui avait déjà été faite. Marc luttait avec ses pensées. Il était toujours en colère et blessé, mais les paroles des anciens avaient creusé une brèche dans le mur qu'il avait construit dans son cœur. Son épouse vit qu'il avait besoin d'un moment pour remettre ses idées en place. Alors, elle se leva et s'approcha du micro. Se tournant vers les anciens, Donna, la femme de Marc, dit: j'étais venu ce soir pour dire à tout le monde combien vous nous aviez blessés. Mais maintenant, Dieu m'a montré combien j'avais tort. J'ai finalement compris ce que le Seigneur voulait me dire dans 1 Jean 3,15. Dans 1 Jean 3,15. En m'accrochant à ma haine, je vous ai assassiné dans mon cœur pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne l'êtes. Je vous demande pardon et je vous demande de me pardonner. En revenant à sa place, on pouvait voir sur son visage la liberté qu'elle ressentait. Son amertume avait été balayée. Les pieds de Marc étaient mous quand il se leva et s'avança vers le micro. La bataille dans son cœur était arrivée à son apogée. Il pouvait s'accrocher à sa colère et prendre sa revanche. Ou il pouvait avoir la liberté en pardonnant et en confessant ses propres fautes. Avec une grande émotion, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire les deux. « Aide-moi, Seigneur, » pria-t-il silencieusement alors qu'il s'approchait du micro. Soudain, ses mains s'ouvrirent, ses notes tombèrent à terre. Se tournant pour faire face aux anciens, il parla comme il, comme il n'avait jamais prévu le faire ce soir-là. Donna a tort. Je suis la personne la plus coupable en tout cela. En tant que pasteur associé, j'aurais dû montrer un exemple d'humilité et de soumission. J'aurais dû avoir confiance en Dieu qui œuvre par les anciens et l'Église pour le choix d'un nouveau pasteur pour cette Église. Mais au lieu de cela, j'ai laissé mon désir d'occuper cette place prendre le dessus. Et j'ai choisi de le faire à ma manière. Je me suis élevé et me suis mis sur la défensive lorsque certains ont mis en doute mes capacités. J'étais en colère que des personnes parlent derrière mon dos. Mais j'ai fait exactement la même chose. Au lieu d'aller voir ceux qui avaient parlé contre moi, je les ai évités et je me suis enfermé dans l'amertume. Même quand certains m'ont demandé pardon, j'ai refusé de l'accorder. J'ai misérablement échoué dans mon rôle de pasteur. Et pire, c'est que j'ai entraîné Donna dans mon amertume. Je demande pardon à Dieu et j'espère qu'il vous donnera la grâce de me pardonner. Les anciens se sont levés d'un seul coup pour embrasser Marc. Ils sont aussi allés chercher Donna. Et après quelques instants, une autre voix se fit entendre derrière eux. Deux micros avaient été placés au devant de l'assemblée. Un homme âgé se leva devant eux, voulant aussi partager sa faute. Avant qu'il n'eût fini de parler, une femme se tenait déjà devant l'autre micro, poussée par le Saint-Esprit de trouver la paix par la confession. Puis une autre, puis un autre confessèrent leurs péchés, leurs calomnies, leur esprit de division, leur dureté de cœur. Après 45 minutes de confession, un silence tomba sur l'assemblée. Un médiateur termina par la prière. Lorsqu'il eut fini, il suggéra à chacun de se tourner vers son voisin qui confessait la foi en Jésus-Christ en disant « Le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés ». Les gens se partagèrent cette bonne nouvelle, se prirent dans les bras et parlèrent si longtemps que les médiateurs durent s'en aller discrètement. Ils savaient que ces gens étaient entre de bonnes mains, les mains de Dieu. Cette histoire vraie, qui est une parabole moderne, nous aide à comprendre l'importance d'enlever sa poutre. Et nous allons voir trois choses ensemble maintenant. La première, qu'est-ce qui nous motive à enlever la poutre de notre œil? La deuxième, la poutre commence dans le cœur, comme les conflits. Et troisièmement, nous verrons un élément très important, la repentance qui libère de la poutre du péché. Alors, qu'est-ce qui nous motive à ôter la poutre de notre œil? En fait, lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent, mais plus rien ne nous retient d'avouer les fautes, même celles que nous pensons être les plus minimes. Il est dit dans Matthieu 7, que nous avons lu tout à l'heure, au verset 2, « C'est du jugement qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. » Si la mesure que vous utilisez pour juger vos actions, c'est de vous auto-justifier, comment pouvez-vous demander à votre offenseur d'agir différemment? Si par votre jugement vous dites que l'autre a totalement tort, ou du moins plus que vous, pourquoi ne ferait-il pas de même? Pourquoi Dieu ne ferait-il pas de même avec nous? C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Si vous avez décroché, revenez. Il y a une phrase très importante maintenant. Notre motivation à ôter la poutre de notre œil ne vient pas de ce que nous pouvons gagner. Non? Notre motivation à ôter la poutre de notre œil ne vient pas de ce que nous pouvons gagner, mais de ce que nous avons reçu. C'est ça notre motivation. Ce n'est pas ce qu'on peut gagner, c'est ce qu'on a reçu de Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau dans la famille de Dieu, nous avons reçu des promesses tout simplement extraordinaires. Jésus a tout payé. Donc n'ayez aucune crainte d'avouer un péché à Dieu. Christ a déjà payé. Oh oui, c'est vrai que nous sommes honteux lorsque nous confessons un péché. Car en tant qu'enfants du Saint des Saints, nous ne pouvons jamais prendre le péché à la légère. Jamais. Mais Christ a payé. Il a pris la condamnation qui pesait sur nous. Tout est totalement et entièrement payé. Ma honte n'est pas un prix que je paye pour être pardonné. C'est uniquement une conséquence du péché lorsque nous nous trouvons devant le Dieu Saint. Notre motivation à enlever notre poutre de notre œil vient de l'évangile de Jésus-Christ, son œuvre de rédemption qui atteste que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous connaissez ce texte de 1 Jean 1,9. Et pourquoi l'argument ici est la fidélité et la justice de Dieu? Il n'est pas question de miséricorde ou d'amour dans ce verset de 1 Jean 1,9. Simplement parce que Christ a déjà payé. Dieu est juste, il ne fait pas payer deux fois. Et il est fidèle, car lorsqu'il dit qu'il nous a sauvés, comme dans Tite 3, 4 à 7, il est fidèle. Nous allons donc vivre cette étape d'enlever la poutre de notre œil parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde. Nous allons donc vivre cette étape d'enlever la poutre de notre œil parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde. Il fait grâce, il restaure, il renouvelle, il accorde son pardon à celui qui confesse son péché. Il accorde son pardon à celui qui confesse son péché parce que Jésus a déjà payé pour celui qui se repent. Si vous ne connaissez pas ce pardon, vous n'avez jamais vécu un pardon comme celui-là, venez à Dieu. Confessez vos péchés, repentez-vous et croyez que Christ a payé la dette. Tout au long de cet enseignement, il est important de se souvenir de notre motivation première. Nous connaissons l'évangile libérateur de Jésus-Christ. Nous vivons donc notre rôle d'artisan de paix avec l'assurance de la réconciliation avec Dieu, qui produit la réconciliation avec les autres. Nous avons toujours dans notre tête l'objectif de 2 Corinthiens 5, 18-19, que nous avons déjà vu et qui dit « En tout cela, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors avec cet objectif en tête, nous pouvons reprendre Matthieu 7,5 et aborder notre deuxième point. Matthieu 7,5, vous vous souvenez? Hypocrite? Non, je ne le fais pas comme d'hab. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la poutre, non, la paille de l'œil de ton frère. Dans ce prochain point, nous allons chercher à débusquer les causeurs de conflits et les mettre en lumière pour les éliminer de notre vie. Donc, deuxième point, la poutre commence dans le cœur, comme les conflits. Afin de retirer la poutre de notre œil, il faut commencer par voir d'où elle vient, cette poutre. Eh bien, le texte de Matthieu 15, 19 dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et ce texte est appliqué dans Jacques 4, les versets 1 à 3, qui souligne que les conflits viennent des passions non satisfaites de nos cœurs. Lorsque nous voulons quelque chose et que nous sentons que nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne l'avons pas obtenu, ce désir commence à nous contrôler. Et si les autres ne comblent pas nos attentes, nous les condamnons souvent dans notre cœur et nous luttons encore plus fort pour obtenir ce que nous voulons. Ce désir a remplacé Dieu. Ce n'est plus le désir de plaire à Dieu, iPad, qui domine, mais la poursuite d'un désir personnel. C'est ce qu'on appelle une idole. Alors j'aimerais regarder avec vous comment on fabrique une idole. Rassurez-vous, ce n'est pas pour en fabriquer ensemble. C'est pour les débusquer et les éliminer de nos vies. Il y a 4 étapes dans la fabrication d'une idole. Les voici, je vous les donne, et puis ensuite on va prendre un exemple. Je désire, j'exige, je juge et je punis. Voilà, 4 étapes pour construire une idole. Je désire, j'exige, je juge et je punis. Et Dieu m'a permis de reconnaître ces étapes dans ma vie à plusieurs reprises. Et je vais donc vous expliquer ces 4 étapes avec un exemple concret que j'ai vécu. J'ai un désir, c'est de ne jamais jeter de nourriture. Il n'est pas mauvais, c'est un bon désir. Et avec mon épouse, on continue à vivre ce désir. Mais je me suis rendu compte que ce désir était beaucoup plus fort qu'un simple souhait et une façon de vivre dans une situation. C'était une exigence. Et je l'ai découvert lorsque j'ai dû jeter un petit cornet qu'on avait reçu, car la nourriture était avariée. Bon, jusque-là, vous me direz, le désir et une exigence dans ce domaine ne posent pas de problème tant qu'on n'arrive pas au jugement. Mais le problème, c'est que je n'en suis pas resté là. J'ai jugé mon épouse à ma honte. Et je dois dire que je l'ai critiqué et condamné. On ne savait pas que ça se conservait pas hors du frigo d'ailleurs, mais enfin bon. Et dans mon jugement, je l'ai puni en lui disant des paroles blessantes. Les idoles demandent toujours des sacrifices. Et là, j'ai donné les douleurs de ma femme à cette idole. J'ai utilisé l'épée de ma langue pour offrir ce sacrifice. Vu comme ça, l'idole est plutôt terrible. Il fait mal. Mais je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir montré cette idole ce jour-là, afin que nous puissions en couple emprunter le chemin de la réconciliation. Le Seigneur m'a fait la grâce d'enlever ma poutre et de demander pardon à mon épouse. Vous savez, même si cette idole paraît petite, elle nous a pris du temps et de l'énergie. Imaginez si une idole consomme des jours, des semaines, voire des mois. Quelle perte de force! Une idole, c'est tout ce dont nous dépendons en dehors de Dieu pour être heureux, épanoui et rassuré. C'est quelque chose que nous aimons et poursuivons plus que Dieu. C'est ça une idole. Hein? Une idole, c'est tout ce dont nous dépendons en dehors de Dieu pour être heureux, épanoui, rassuré. Si seulement j'avais ça, je serais heureux. C'est quelque chose que nous aimons et poursuivons plus que Dieu. Et c'était le cas pour moi dans cette situation pour la nourriture à ne pas jeter. Manifesté par l'orgueil de celui qui ne veut pas que les autres sachent que j'aurais jeté de la nourriture pourrie. Pendant un instant, je dépendais plus de cela que de Dieu pour être heureux, épanoui et rassuré. Et vous savez, une punition liée à une idole souvent utilisée est l'envoi de signaux subtils et désagréables pendant de longues périodes. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de punir pour obtenir quelque chose pour vous-même, c'est le moment de débusquer l'idole de votre cœur. On commence à mieux comprendre le texte. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Remplaçons cette poutre idole par l'adoration du vrai Dieu. Il faut remplacer. Si vous ne remplacez pas, ceux qui ont un jardin, ils savent très bien ce que c'est. On enlève les mauvaises herbes, on ne fait rien. Il n'y a pas des tomates qui poussent. Hein. Remplaçons cette poutre idole par l'adoration du vrai Dieu. John Piper dit dans Future Grace, une phrase que j'aime bien, qui dit « Le péché est ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas vraiment satisfait en Dieu. » Le péché est ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas vraiment satisfait en Dieu. Alors, désolé, je ne vais pas pouvoir prendre le temps pour développer ce point ici de manière très extensive. C'est pourquoi je vous encourage à y réfléchir cet après-midi. Comment remplacer les idoles par l'adoration de Dieu dans différentes manières? C'est peut-être le sujet de discussion à table aujourd'hui, à midi. Hein? Mais quelques questions qui peuvent venir avec vous. Vous repentez-vous régulièrement devant Dieu? Craignez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu? L'Éternel est-il vos délices? Afin d'ôter la poutre de notre œil, nous allons voir un dernier point très important. C'est la repentance qui libère. La repentance qui libère, notre troisième point. Il est écrit dans Proverbe 28, 13, qu'on a entendu tout à l'heure, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. » Les dissimuler, c'est les cacher, c'est ne plus y voir, hein, c'est comme ça. « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. » Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. La repentance, c'est plus qu'une émotion. Elle implique un changement de cœur qui n'est possible que si nous comprenons que le péché est une offense personnelle envers Dieu. Dans ce chemin, nous devons prendre notre responsabilité. Alors, un premier élément, j'aimerais vous expliquer la règle du 40-60. Vous connaissez la règle 40-60? Un ou deux peut-être d'entre vous la connaissent, je vais vous l'expliquer. La règle du 40-60, c'est de dire, je reconnais que j'ai une part de responsabilité dans ce problème, je dirais 40%, et l'autre 60%. Il a donc 20% de plus que moi. C'est donc à lui de demander pardon en premier. Voilà la règle 40-60. La règle 40-60, c'est de dire, je reconnais que j'ai une part dans le problème, je dirais 40%, et l'autre 60%, comme il a 20% de plus, c'est à lui de demander pardon en premier. Eh bien, dans les calculs de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer l'arithmétique divine. Même si 95%, enfin 95%, on est pas loin ici, la frontière, même si 95% de tort est du côté de l'autre, je suis 100% responsable du 5% restant. Ça, c'est les maths de Dieu. Même si 95% des torts est du côté de l'autre, je suis 100% responsable des 5% restants. Et il est fondamental de demander à Dieu de montrer clairement notre péché, de réfléchir à notre vie. J'aimerais vous donner quelques questions qui vont vous permettre à vous examiner. Ma langue est-elle une arme? Est-ce que je cherche à contrôler les autres? Est-ce que je tiens parole? Est-ce que je respecte l'autorité? Est-ce que je vis la règle d'or de Matthieu 7, 12? Bon, je vais quand même vous dire ce que c'est. Hein. C'est donc, faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Est-ce que je vis cette règle? Est-ce que j'agis poussé par de mauvais désirs? Peut-être que vous pouvez continuer à poser des questions utiles à voir votre cœur ensemble encore à midi. Il y a beaucoup de choses à discuter à midi. Mais en même temps que Dieu ouvre les yeux sur le péché, il offre le chemin pour être libéré de nos fautes. C'est la repentance en fait. Dans la repentance, on a ces deux aspects. Il ouvre les yeux pour qu'on voie notre buzz. Et en même temps, il nous donne cette joie d'être complètement lavé avec un parfum qui sent bon. Mais pour être libéré, Il faut apprendre à confesser ses fautes avec sincérité et sans condition. Se repentir réellement. Des phrases telles que... Écoutez, peut-être que vous avez déjà entendu ça. « Je suis désolé si je t'ai blessé. » Ou « Oublions cette histoire. » Ou bien « Je pense que j'aurais pu faire mieux. » Ou encore « Je suppose que c'est pas de ta faute. » Toutes ces phrases n'amènent ni le pardon, ni la réconciliation. Ce ne sont pas de la repentance. Si nous voulons vraiment faire la paix, demandons à Dieu la grâce de confesser avec humilité, sincérité nos fautes, de vivre une vraie repentance. Et je vais vous donner maintenant un outil qui va vous aider à vivre cela. C'est ce qu'on appelle les 7 A de la repentance qui libère. La lettre A, puisque chaque chose commencera par A. Alors, s'il est vrai que nous n'avons pas forcément une checklist à cocher lorsque nous confessons nos fautes, je vous encourage à vous imprégner de ces 7 étapes afin qu'elles soient ancrées et que vous les viviez lorsque vous vous repentez. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai vu beaucoup trop souvent et malheureusement des repentances qui n'en étaient pas et qui rendent le pardon difficile, voire impossible. Donc si vous voulez aider la personne qui doit vous pardonner, repentez-vous réellement. Ou j'irai plus loin. Si vous voulez recevoir le pardon, même le pardon de Dieu, repentez-vous réellement. Voici un outil qui peut vous aider. Les 7 A de la repentance qui libère. Il y a un ou deux points, je ferai plus de temps, d'autres seront plus rapides. Le premier A, c'est aller vers chaque personne impliquée pour confesser sa faute. Aller vers chaque personne impliquée pour confesser sa faute. Or, bien entendu, tout péché offense d'abord Dieu. Il faut donc lui confesser notre péché. Un péché de cœur qui n'affecte pas directement les autres doit seulement être confessé à Dieu. Vous avez une pensée mauvaise face à quelqu'un, il n'y a pas besoin de lui confesser. Ou même, il ne faut pas le lui confesser. Vous allez lui faire mal. Il faut le confesser à Dieu. La parole nous enseigne dans ce cas que parfois, confesser ses fautes devant témoins est important. Ce sera un appui lorsque l'ennemi de nos âmes voudra continuer à nous accuser. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre et dire j'ai péché, j'ai eu cette pensée, j'ai besoin que tu sois témoin de ma repentance devant Dieu. Comme ça, si l'ennemi vient frapper à ma porte, je dis oh, va téléphoner à tel et tel, les témoins. Mais dès qu'un péché touche quelqu'un d'autre, donc si vous avez une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un et que vous avez agi d'une manière qui était mauvaise face à cette personne, eh bien, il faut aller vers cette personne. Aller vers chaque personne impliquée. Ce n'est pas toujours facile. Moi, il m'est arrivé de me rendre compte que j'avais calomnié. J'ai dû téléphoner à la personne à qui j'ai dit ça, j'ai demandé si tu as dit ça à quelqu'un d'autre. Et j'ai dû téléphoner aux personnes à qui la personne l'avait dit. Pour que les choses soient rétablies. Si on se repent, on va vers les personnes concernées. Sinon, ce n'est pas de la repentance. Sinon, c'est juste, je veux un pardon, mais laissez-moi la paix. Deuxième A. Là, je prends un peu de temps, parce qu'il marque les personnes. Moi, il m'a marqué, donc il va vous marquer aussi. Premier, aller vers chaque personne impliquée pour confesser ses fautes. Deuxième, abandonner les si, mais peut-être dans sa confession. Une des confessions les plus courantes, c'est « Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. » Le mot « si » annule la confession. Car vous ne savez pas si vous avez fait du mal. Je vais vous donner une traduction du message « Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. » Je vous donne la traduction. Vous êtes prêts ? Il est clair que tu es énervé. Il est clair que tu es énervé par quelque chose. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais pour que tu arrêtes de me casser les pieds, je t'offre cette demande de pardon. En plus, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, je ne sais vraiment pas ce que je devrais améliorer plus tard. Ainsi, ne t'attends pas à ce que je change. C'est simplement une question de temps avant que je refasse la même chose. Je redis la phrase, hein, ça c'était la signification. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. Abandonner les si. Si vous confessez quelque chose à quelqu'un et que vous dites un si, ça c'est pour la musique, vous vous arrêtez et vous recommencez. Le mais n'est pas mieux dans le domaine de la confession. Ce petit mot a une capacité étonnante à faire oublier ce qu'on a dit précédemment. Je suis désolé d'avoir froissé tes émotions, mais tu m'as vraiment énervé. Je sais que j'ai eu tort, mais toi aussi. Une confession avec un « mais » n'est pas un chemin efficace qui conduit à une réconciliation véritable. S'il a quelque chose à dire à l'autre personne, c'est la prochaine étape, redresser avec douceur, on le verra. Mais je vous ai dit, d'abord, on doit enlever notre poutre. N'essayez pas d'enlever la paille avant d'avoir enlevé la poutre. D'abord, il faut enlever notre poutre. Le mot « peut-être » atténue aussi la confession. Ou comme les « il me semble ». Il me semble que j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Ah ouais? Non. Abandonnez les « si »,« mais »,« peut-être »,« il me semble », etc. Et disons « j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Je te demande pardon. » Ou « j'ai péché en disant ces mensonges sur toi. » C'est faire face à ses péchés, c'est ne pas les atténuer ou les minimiser. Il n'y a pas besoin d'atténuer nos péchés, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas besoin. Christ est mort, il a payé suffisamment pour nos péchés. Il n'y a pas besoin de faire qu'il soit moins cher pour qu'en fait il ait moins à payer. En plus, en faisant ça, on diminue la conscience de sa grâce. Rappelons-nous que nous confessons nos péchés sans les si, mais peut-être, parce que nous savons que Christ est mort pour nos péchés et nous pardonne lorsque nous les confessons. C'est l'évangile, notre motivation. Ça ira plus vite, il y en a sept, je vous ai dit, mais on en a fait deux. Donc allez vers toutes les personnes concernées, abandonnez les si, mais peut-être. Troisième, avouez spécifiquement vos fautes. Être précis permet de savoir ce que nous devons changer dans notre comportement. Un exemple, hein. Mes commentaires critiques ne t'ont pas seulement blessé, ils ont aussi offensé Dieu. J'ai désobéi à son commandement de ne pas mépriser les autres. On ne dit pas simplement « excuse-moi, j'ai été maladroit ». Quatrième élément, admettez la blessure infligée par vos fautes. Je comprends ou j'entends que tu as été blessé lorsque je ne suis pas venu à l'heure et que nous sommes arrivés en retard. Je suis désolé de ne pas avoir tenu parole. Il est important de reconnaître qu'on a fait du mal à l'autre. Sinon, on va recommencer beaucoup plus facilement. Si vous êtes conscient que vous faites mal à quelqu'un, vous aurez beaucoup plus de peine à faire la chose. Si vous n'êtes pas conscient de faire du mal, il y a rien, beaucoup moins de choses qui vous retiennent. Quatrièmement, admettre la blessure infligée. Cinquièmement, assumer les conséquences réparables de votre faute. Si des biens ont été endommagés ou volés, il faut les restituer ou réparer. C'est ce qui a rendu crédible, par exemple, la repentance de Zachée dans le Nouveau Testament. Si le péché était des ragots, il faut contacter toute personne impliquée, connue, pour dire que ce n'était que des mensonges. Une repentance sans réparation de ce qui est possible et des efforts pour diminuer la peine causée par la faute n'est pas une repentance. Sixième élément, améliorer votre comportement pour éviter cette faute. Expliquez ce que vous allez faire pour éviter de refaire cette faute ou demander des conseils peut-être même à la personne qui a été touchée, dire mais comment est-ce que je peux faire pour ne plus entrer dans ce chemin ou dans cette faute. C'est en fait se détourner de son péché, c'est aller dans une autre direction, c'est la repentance. Et septième élément, et généralement on ne dit que celui-là, septième élément, c'est appeler au pardon pour votre faute sans pression. Demandez à la personne de vous pardonner. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? C'est celui qui a fait une faute qui appelle la grâce. Il n'est pas en train de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Et si l'autre ne peut pas dire « je te pardonne tout de suite », ne mettons pas la pression. Mais prions et demandons à Dieu de nous montrer s'il a peut-être quelque chose d'autre, une autre poutre qu'on a oubliée et qui retient l'autre, qui lui donne la peine à entrer dans ce chemin de pardon. Et si la personne ne veut pas pardonner, sachez que Dieu vous a pardonné si vous êtes repenti devant lui. Même si l'autre ne veut pas vous pardonner, Dieu vous a pardonné si vous vous êtes repenti. C'est très important. C'est pas l'autre qui détermine si je serai sauvé ou pas. C'est Dieu. Par contre, le pardon de l'autre est important dans la reconstruction de la relation avec l'autre. Ça, c'est juste. Mais si quelqu'un n'arrive pas à pardonner, prions pour cette personne afin qu'elle puisse sortir de la prison du non-pardon. On en parlera quand on parlera de reconstruire par le pardon. Et cette dernière étape est l'appel de la grâce ayant démontré l'acceptation de sa responsabilité, de sa faute, le désir de s'en détourner et l'encouragement, ou mieux la preuve de la réparation de ce qui est possible. Alors rappelons-nous les 7 A de la repentance qui libère. Et je vous encourage dans un premier temps même à prendre votre checklist quand vous êtes face à un péché prochainement, pour vous aider à entrer là-dedans. Je vous assure que ça va changer votre façon de vous repentir et ça va changer la façon de donner et recevoir le pardon. Je vous les rappelle. Allez vers les personnes concernées pour confesser votre faute. Abandonnez les 6 mais peut-être dans votre confession. Avouez spécifiquement vos fautes. Admettez la blessure infligée par vos fautes. Acceptez et appliquez les conséquences de votre faute. Améliorez votre comportement pour éviter cette faute et appelez au pardon pour votre faute sans pression. C'est bien entendu pas vraiment possible de retenir tout ça d'un coup. Après, enfin, peut-être plusieurs y arriveront. Enfin, moi, j'arrive pas. Donc, moi, je reprends ces choses régulièrement. J'ai même le privilège de prêcher. Je dis souvent, je pense que je prêche souvent ça parce que j'en ai vraiment encore plus besoin que vous. Mais que le Seigneur nous fasse la grâce de saisir ces éléments, vous avez les petits papiers que vous pouvez reprendre, troisième sujet de discussion à midi, on se rappelle les 7 A, etc. Comme courte conclusion, j'aimerais vous lire l'engagement de l'artisan de paix concernant ce deuxième R, retirer la poutre. Ça sera la conclusion, c'est une phrase condensée, je la lirai 2 fois, et ensuite je prierai courtement pour terminer. Au lieu d'attaquer les autres ou de s'arrêter sur leur tort, nous assumerons la responsabilité de notre propre contribution au conflit. En confessant nos péchés, en demandant à Dieu de nous aider à changer toute attitude ou habitude qui mène au conflit, et en cherchant à réparer tout tort que nous avons causé, ceci parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent. Je reprends. Au lieu d'attaquer les autres ou de s'arrêter sur leur tort, nous assumerons la responsabilité de notre propre contribution au conflit en confessant nos péchés, en demandant à Dieu de nous aider à changer toute attitude ou habitude qui mène au conflit et en cherchant à réparer tout tort que nous avons causé. Ceci parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent. Nous allons courtement prier. Éternel notre Dieu, en ce début d'année, c'est tellement fabuleux de se rappeler que tu es un Dieu miséricordieux, que nous pouvons venir vers toi confesser nos péchés, que nous n'avons pas à cacher, que nous n'avons pas à nous justifier, que nous n'avons pas à dire « Ouais, mais l'autre est pire que moi. » Oh Seigneur, quelle grâce! Nous pouvons venir vers toi pour te dire « Oui, j'ai péché, j'ai fauté, j'ai menti. J'ai eu une pensée qui n'était pas selon ta gloire. J'ai trompé. J'ai pas cherché le bien de l'autre. J'ai voulu être en premier Et donc, j'ai écrasé l'autre, je l'ai dédaigné. Et Seigneur, nous pouvons te demander pardon. Nous pouvons te prier de nous donner la force aussi d'aller vers une personne que nous avons peut-être dépréciée, afin de lui demander pardon et de l'apprécier. Et de démontrer aussi que nous t'aimons tellement que nous aimons cette personne parce que tu l'as faite, parce que tu l'aimes, au point de donner ton fils. J'aimerais, Seigneur, te prie vraiment que cette année 2022 soit réellement marquée par des vraies repentances dans nos vies, afin de pouvoir nous réjouir de ta miséricorde et de ton salut, et non seulement nous en réjouir, mais le partager. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.